Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs de Radio Alpa, sujet très sérieux. On va parler des bonnes manières à table en Asie, de l'importance de la nourriture et de la convivialité, et aussi des baguettes.
Aïe aïe.
Oui, puis Didier, tu vas nous expliquer ce que sont les pierres de compagnie, de plus en plus adoptées en Corée du Sud,
oui.
Mais aussi dans d'autres endroits du monde.
Je vais tenter de tout vous expliquer, oui.
Bien. Alors, on dit qu'en France, on aime bien manger, Didier. Mais pour ce qui concerne l'Asie, on peut parler de passion.
Ah.
Eh oui. Alors, il y a 2500 ans, Confucius a dit, il a dit beaucoup de choses, mais il a dit quelque chose de très important, c'est
d'accord.
Que la nourriture était le premier besoin des gens. Alors, ça paraît comme ça une évidence.
Fondamental, oui, voilà.
Voilà. Mais en fait, c'est une des raisons pour lesquels on respecte la nourriture en Asie. Confucius a dit que c'était sacré.
D'accord.
Alors, savez-vous qu'en Chine et en Corée, après s'être salué, on demande « Avez-vous bien mangé ?» Comme nous, on dit « Bonjour,
nous,
comment
ça va ?»
Okay. Bah, eux, ils disent « Bonjour, avez-vous bien mangé ?»
D'accord.
L'importance de la nourriture s'explique par la nécessité qui a forcé les Chinois et les Coréens au cours des siècles, à cause des famines, à manger presque tout ce qui pousse sur terre.
Mmh.
Tout ce qui se déplace ou tout ce qui vole dans le ciel.
Un peu de tout, quoi.
Un peu de tout. En Chine, on disait que tout ce qui a quatre pattes se mange, sauf les tables et les chaises.
Oui. Alors, en fait, du coup, c'est pour ça qu'en Chine, il y a la plus grande variété de plats du monde, environ 5000, c'est ça?
Oui, c'est ce qui se dit, en tout cas. En
d'accord.
Tout cas, c'est certain qu'en Asie, il y a une très, très, très grande variété de plats. Alors, c'est dû au fait qu'ils ont effectivement beaucoup d'imagination.
Mm-hmm.
Quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'a pas beaucoup de viande, eh bien, on fait preuve de créativité.
On se débrouille.
On se débrouille. Et puis, mais il faut dire qu'aujourd'hui, la street food est exceptionnellement variée partout en Asie. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça coûte pas cher et on mange très bien dans la rue, dans tous les pays d'Asie. Alors là-bas, manger veut dire bien plus que simplement se remplir l'estomac. La nourriture est toujours chargée de symboles, on en avait parlé lors de notre émission sur la fête du printemps.
Oui.
Alors, il faut se rappeler que chaque mets sur la table a son interprétation.
Mmh.
Alors, souvenons-nous, le poisson, c'est la richesse. Le poulet, c'est la famille, puisqu'on le partage. Les nouilles, c'est la longévité, etc.
Oui, elles sont longues, c'est la longévité, je me souviens.
C'est ça, c'est pour ça qu'il faut manger beaucoup de nouilles.
D'accord.
Et puis, lors des mariages, les nouveaux mariés mangent des boulettes de riz bien gluants et sucrées pour qu'ils aient une vie douce sans se séparer.
Ah, d'accord. Oui.
Voilà, l'histoire des gâteaux de riz gluants.
D'accord. Et alors, comment ça se passe, par contre, un repas au restaurant?
Ben oui, c'est un petit peu important de savoir mm-hmm. comment ça se passe, parce qu'il y a quand même des règles à respecter.
Histoire de ne pas se tromper.
Qui sont différentes de ce qui se passe en Occident.
Mm-hmm.
Alors d'abord, en Asie, on peut manger au resto toute la journée et une grande partie de la nuit, voire toute la nuit, dans certains restaurants.
Ah oui.
Alors, un bon restaurant ne signifie pas un beau décor, un service hors pair. L'important en Asie, c'est d'y avoir une excellente nourriture. Ça peut ressembler à une cantine, mais il faut qu'on y mange très bien et ce sera donc un bon restaurant.
Ok.
Alors, n'oubliez pas, en Asie, si on invite quelqu'un à manger, c'est l'occasion de montrer sa générosité, son amitié, son amour. Et il n'est pas question d'économiser à ce moment-là.
Alors, on ne rigole pas.
On ne rigole pas avec la nourriture en Asie.
D'accord.
Alors, aller au restaurant, c'est aussi pour consolider des relations d'affaires et un grand banquet est toujours un bon investissement. Et puis, même si ce n'est pas un grand banquet, des repas de travail pour la convivialité et la cohésion du groupe, c'est très bien. Alors, quand on est invité au resto, on doit laisser la personne qui nous a invité nous désigner le siège qu'il nous a réservé. Et on s'assiera après.
Okay.
Alors, en général, on s'assied après la personne la plus âgée aussi.
Ouais.
Il ne faut jamais refuser la place qui nous est offerte.
Mmh.
Alors, il y a toujours autant de plats que de convives sur la table, car il est de coutume de servir beaucoup à manger et de partager. Ce qui reste sera emporté comme doggy bag.
D'accord, très bien.
Alors, et quand le repas est terminé, c'est celui qui est invité qui paye, très important. Oui. C'est pas du tout comme ça que ça se passe maintenant en France. En tout cas, c'est très rare. Alors, vous pouvez proposer de partager en Asie, mais seulement pour la forme et par politesse. Okay. Mais il ne faut pas insister, car ce serait vécu comme un affront.
Ouais,
quand on est invité, on est invité. On se laisse inviter.
Ça me va
et
bien.
C'est à charge de revanche.
D'accord. Bon, alors, tu connais ma passion de la cuisine et surtout de la pâtisserie. Donc, parle-moi un petit peu des desserts.
Alors, Didier, tu vas être déçu parce qu'il n'y a pas l'habitude du dessert en Asie. Seulement des fruits coupés en tranches en fin de repas. Mais par contre, on mange de très bons gâteaux, mais plutôt pour le goûter, dans les salons de thé. Et j'oubliais, ah oui, à table, on ne se mouche pas, on ne plante jamais ses baguettes à la verticale dans le bol, parce que ce geste symbolise l'encens, donc la mort.
Ah oui, on
voilà,
va
donc
éviter
jamais
ça.
On plante ses baguettes.
Je comprends.
Et enfin, une fois qu'on a fini de manger, on ne pose pas non plus les baguettes pointées en direction de quelqu'un.
D'accord.
En attendant la suite,
oui.
Moi je te propose Didier qu'on fasse une pause musicale. Je pense que ça plaira aux auditeurs de Radio Alpa. C'est la chanteuse Thérèse, chanteuse française d'origine asiatique qui nous chante chinoise. C'est une chanson qui nous raconte le racisme.
Alors on
anti-asiatique.
Écoute, on profite.
Chinese, money, femme tigre, Gucci, Lucy, le gomli 2020 vit ma vie. Shintok, Kanri, manga, bar tabac, Jackie Chan, Bruce Lee, tu tabasses, il sourit. Mateux, mafieux, mini, zizi, virus et qui casse ton rouge de mieux laser, mi. Ni hao, konnichiwa, sawadikap, sawadikap. Banania, couscous, même combat, Ouigo, quel rapport avec moi? Pourquoi t'es seule, qu'on te répond pas? C'est quoi ton d'elle? Pourquoi t'abois? Tu veux mon tel? Voilà mon doigt. Fuck you, Miss China! Joue quoi, nichien, kowato? Caché, mâché dans mon menu B3. Les Balkans, les gens frais du fa. Aussi la char, bon comme Halo Flové. Dans ce soja, ta gueule de connard laqué. Tu kiffes le karaoké. Tachi, sashimi, okazi, à vous l'Asie. T'as bloqué, si sera mat une dernière fois. Mon faciès de Nyakwe, karaté, karité, garaté. Ça, on va te niquer.
Toujours sur Radio Alpa 107.3, on va continuer Asialogie et là on parlait du repas mais maintenant on va peut-être parler de ce qui accompagne, un peu de boisson j'imagine.
Un peu de boisson, oui. Que ce soit en Chine, au Japon ou en Corée, on boit beaucoup et de tout. Il faut savoir aussi que du thé peut être servi en guise d'apéritif. Ça ne se fait pas du tout en Occident, du moins, sauf dans les restaurants asiatiques. Peut-être.
Bien sûr.
Alors, il y a de l'alcool, du vin, de la bière, du soju, du saké. Tout est servi à profusion. Pas forcément en même temps, on est d'accord. on boit beaucoup, surtout dans les repas entre collègues ou les repas d'affaires.
Oui.
Où il est de coutume de se lever et d'aller trinquer plusieurs fois avec tout le monde pour signifier que l'on est heureux de partager un bon moment.
Bien.
Alors, il y aura toujours quelqu'un pour veiller à ce que les verres soient toujours remplis, d'où l'importance de le vider stratégiquement pour terminer le repas en bon état.
Oui.
Alors au Japon et en Corée, on ne se sert pas à boire soi-même. On attend toujours d'être servi par quelqu'un d'autre. On peut en revanche servir les autres. Au Japon, si vous devez trinquer, dites kanpai.
D'accord.
Ou gambei, en Corée, pareil au Japon. Mm-hmm. Jamais chin-chin. Parce qu'il paraît qu'en japonais, ça signifie testicule.
Ah oui, c'est plutôt malvenu, je te l'accorde.
Ben, oui, voilà, ça devrait les faire beaucoup rire,
éviter,
j'imagine.
Oui. Donc oui, les auditeurs, c'est important. Kanpai,
oui,
c'est mieux.
Quand même
c'est
un
mieux.
Truc à savoir.
Oui. Oui, c'est mieux.
Alors il faut noter que partout en Asie, il y a des services de chauffeurs pour accompagner tout le monde, car il est interdit de conduire quand on a bu. Alors on peut trouver en Asie, sous son pare-brise, des petits flyers avec des numéros de chauffeurs qui viennent vous récupérer, vous
d'accord.
Ramener à domicile
oui.
Et après ils rentrent à pied, en métro, comme ils veulent.
Oui, c'est ça. Puis quand
cas,
on voit dans l'état
qu'ils
se mettent parfois, c'est peut-être mieux. Hein.
C'est, voilà.
Ça paraît.
Parce que c'est interdit de conduire alcoolisé en Asie. Hein.
Oui, bah, de toute façon, partout, c'est
partout,
bien.
Partout, voilà. C'est vrai.
En fonction, en fait, alors on parlait des restaurants, donc on a parlé de ce qu'on mangeait, ce qu'on buvait, mais maintenant, on mange comment ? Sur des tables, enfin, comment on mange, et puis les couverts, tout ça. Enfin...
D'accord, c'est simple. En Chine, on mange depuis des siècles sur une table et des chaises, comme en Occident. Bon,
d'accord.
On peut aussi manger assis par terre,
oui.
Hein, quand on mange dans la rue, ou sur un tabouret, mais on
au
mange
restaurant, c'est un peu comme
tables
chez
et chaises.
Okay.
En Corée et au Japon aussi, mais beaucoup plus récemment par contre.
D'accord.
Ils mangent, en Corée et au Japon, ils mangent également assis par terre, sur des coussins, sur une table basse.
Oui, c'est l'image qu'on peut en avoir, oui.
Voilà. En Corée, c'est moitié-moitié, vraiment.
Mm-hmm.
Dans les maisons, ils ont tous des tables et des chaises, mais ils ont aussi une table basse.
Ils ont la capacité de faire l'un ou l'autre. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Okay.
Alors, d'une manière générale, le couvert typique se compose d'une façon classique d'un verre ou d'une tasse, d'une assiette, d'un bol, et d'autres bols plus petits pour la sauce, d'une paire de baguettes,
mm-hmm.
ainsi que d'une cuillère. Sans oublier la serviette humide à utiliser avant de manger, pour mm-hmm. se laver les mains et si besoin au cours du repas. Mais aujourd'hui, la serviette humide a tendance à être remplacée par des petites serviettes en papier, beaucoup plus désagréables.
C'est ça, et puis bon, c'est moins écolo,
c'est moins
alors
bien.
Il va falloir revenir aux
moins écolo,
ouais, c'est ça.
Alors, moins
bon,
agréable.
Il y a un truc aussi, bien sûr, c'est on parle des baguettes en Asie. Pourquoi on mange avec des baguettes ? Nous, on est passé de la fourche, la petite fourchette là, qui est devenue une fourchette justement, et tout, et là-bas, c'est des baguettes.
Et c'est des baguettes. Alors, c'est une question vraiment très pertinente, parce que c'est vraiment culturel et très philosophique. Alors en Europe autrefois, au cours des banquets, on mettait en scène le découpage des aliments, on mettait des grosses bêtes sur la table et on venait le découper avec des armes pour rappeler et valoriser ce par quoi l'aristocratie arrivait au sommet d'État, la violence des combats. Ou le courage au combat, on prend ça d'une façon un peu plus positive.
C'est ça.
À l'inverse, en Chine, le processus d'accès au pouvoir était basé sur les études confucianistes.
Mm-hmm.
Alors bannir les couteaux et les fourchettes, considérés comme des armes blanches, mm-hmm. était une manière d'évacuer la violence à table. Manger devant être un plaisir,
mm-hmm.
c'est ce qu'avait dit Confucius. Et l'usage des baguettes caractérise donc la bienveillance et la gentillesse.
Ok, je comprends mieux.
Alors la nourriture... en Asie, doit être au préalable découpé en cuisine, plus pratique à manger avec les baguettes.
Ah oui, c'est sûr.
Et ça évite de présenter aux convives un morceau de viande entière appelant l'animal mort.
Okay.
Hein? On disait, on se met à table pour manger, non pour découper des bêtes.
Mm-hmm.
Alors, il y a aussi une légende très ancienne qui est liée à un empereur qui serait l'inventeur des baguettes. Redoutant un éventuel assassinat, il avait interdit couteau et fourchette, trop impatient de manger un plat qui mijotait. Il a arraché deux branchettes d'un arbre qu'il a utilisé comme une pince.
D'accord, ok. Bon,
une autre version.
Voilà. Et alors, du coup, alors, reprenons. Dans quel pays utilise-t-on des baguettes alors ?
Alors, les baguettes ont commencé à être utilisées lors de la dynastie Han, en 200 avant Jésus-Christ, lorsque la consommation de riz a augmenté. Au cours de cette période, les cuillères ont continué à être utilisées aux côtés des baguettes comme ustensiles de service.
Mmh.
Ce n'est qu'à partir de la dynastie Ming, au 15e siècle, donc récemment, que les baguettes ont été utilisées exclusivement pour servir et manger. Surtout manger.
Ouais.
Puis, l'utilisation des baguettes s'est répandue dans toute l'Asie du Sud-Est au fil du temps. C'est ce que l'on appelle la sphère culturelle des baguettes.
Ah.
La Chine, la Corée et le Japon et le Vietnam.
Oui.
Alors, c'est en opposé à la sphère occidentale avec couteau et fourchette et la sphère des peuples qui mangent avec les doigts.
Ah, aussi,
il y a trois
vrai.
Sphères.
Oui, bien sûr.
Alors, dans le reste de l'Asie, j'ai donc nommé Chine, Corée, Japon, Vietnam, dans le reste de l'Asie, on ne mange pas avec des baguettes. à l'exception des nouilles. Ah. On y déguste sa nourriture avec les mains ou avec des couverts.
D'accord.
Alors j'ai même des statistiques, hein. Il y a 35%, ouais, 35% de la population mondiale qui mange avec des baguettes, c'est
oui.
pas mal quand même,
hein. Oui, oui.
20% avec des couverts et 45% avec les doigts.
Ah oui,
c'est
en fait,
beaucoup.
20%, c'est, on est minoritaire.
On est très minoritaire, ah, on peut
pas.
Même le dire.
D'accord, oui. D'accord. Bon, écoute, et alors soyons encore plus précis, allons plus loin. Donc j'imagine oui. que dans les baguettes, il y a aussi des variantes, non?
Oui.
Elles ne sont pas partout pareilles.
Non, elles ne sont pas partout pareilles. Il y a plusieurs sortes de baguettes. Il y a les baguettes chinoises et vietnamiennes
oui.
qui sont longues, à bout cylindrique, généralement en bois, en bambou ou en plastique. On les trouve de plus en plus en plastique.
Aïe.
Bah, c'est plus hygiénique pour les...
D'accord.
On les lave ou la vaisselle.
D'accord, hein. D'accord.
Alors, les baguettes coréennes sont plus courtes, à bout plat, souvent en métal, accompagnées d'une cuillère assortie.
Mm-hmm.
Et au Japon, elles sont encore plus courtes, à bout pointu, généralement en bois. Donc, quand même des vraies différences. Donc, on peut maintenant reconnaître
oui.
les baguettes des différents pays.
Voilà.
Alors, il faut savoir que seules les baguettes coréennes sont métalliques et la raison est ancienne.
Oui.
L'idée d'utiliser des baguettes en argent est venue pour éviter les empoisonnements à la cour. Une des propriétés chimiques de l'argent étant
oui.
qu'il change de couleur au contact de certaines substances
D'accord.
dans les poisons.
Okay.
Alors, l'utilisation de baguettes en argent permettait de détecter la présence de poisons dans les aliments.
Mmh.
Parce que les complots étaient très courants à l'époque.
Oui, je comprends. D'accord. Bon, alors, et il paraît que, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais que c'est bien vu de faire du bruit en mangeant en Asie. C'est vrai, ça?
Oui, c'est vrai.
D'accord.
Sauf au Japon.
Ah.
Alors, en Corée et en Asie, ils sont beaucoup plus décontractés concernant les bruits liés au repas et à la digestion.
Oui.
Alors, il est bien de slurper en mangeant des nouilles, faire comme ça,
D'accord.
mais encore
okay.
plus fort et à chaque fois. Et en plus, ça refroidit les nouilles qui sont
ah.
toujours servies très chaudes.
Alors,
faut savoir que ça refroidit les nouilles.
Ok, moi, bon, si c'est au plus.
Voilà, et pour
utile.
La soupe, c'est pareil. On a le droit de slurper la soupe.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'on apprécie son repas.
Bon.
Et en Chine. Alors, je ne l'ai pas vu faire en Corée, mais
oui.
en Chine, on a même le droit de rôter à table.
Ah.
Ça va faire plaisir à certains. Voilà.
Bon,
Didier, en attendant
oui.
de faire un bon repas,
oui.
je te propose qu'on écoute la délicieuse Nare Lee.
Oui.
C'est une chanteuse coréenne et
oui.
sa chanson s'appelle Dancing. Et c'est super.
Ok, alors écoutons. Mon bête, c'était pas... song
C'était Nareli sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans dans l'émission Asialogie. Bon, Didier, Nareli, elle a tardé un petit peu à se manifester. Oui, elle dormait dans sa loge ou quoi?
Non, c'est pas elle qui dormait, c'est moi.
C'est toi? Bon, je pense que les auditeurs s'en sont peut-être
rendus compte. Oui, mais c'est pas grave.
Voilà. Bon, c'est pas grave.
On est précis. À 18e émission, on est précis. Alors voilà, on aime être parfait.
On aime être parfait.
On n'arrive pas encore à l'être tout le temps.
Parfait. Oui. Oui, Didier, alors raconte-nous cette histoire de Pierre de compagnie, l'alternative au chat et au chien. D'où vient cette idée qui pourrait nous apparaître quand même un peu
étonnant.
Bizarre.
Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, qui n'a pas ramassé et gardé une pierre une fois dans sa vie, dans sa poche, en train de se balader et tout ça? Il y en a. Sans le savoir, chacun a eu au moins une pierre de compagnie, mais sans lui donner ce nom-là, en fait.
C'est vrai, voilà. Je crois que j'en ai eu plusieurs.
Oh oui, je pense qu'on l'a tous fait. C'est récemment devenu à la mode en Corée du Sud, où près de la moitié des adultes vivent seuls. Oui. Mmh. Pour lutter contre la solitude, il y a les animaux de compagnie, mais la tendance qui monte dans le pays, c'est l'adoption d'un caillou de compagnie. Et il paraît que c'est très apaisant. Bon, voilà, pourquoi
pas. Mais c'est
pas
un peu, je peux concevoir.
Voilà, c'est ça, comme dans tous les autres pays, pendant la période du Covid, beaucoup de Coréens ont adopté un animal pour mieux vivre l'isolement, mais un animal, ça demande du temps et de l'argent, et puis ça a aussi quelques inconvénients, quoi. Donc bon, beaucoup de Coréens ont des journées de travail extrêmement longues, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas s'occuper convenablement d'un chien ou d'un chat, alors voilà.
Alors c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup les Coréens, tu as des chiffres Didier?
Oui, en Corée la durée légale du travail est de 40 heures par semaine, mais avec en plus 12 heures supplémentaires autorisées, donc au total les salariés font près de 52 heures, voire plus pour les cadres, donc beaucoup cumulent également plusieurs petits boulots, difficile d'avoir un animal dans ces conditions.
C'est vrai.
Alors pour leur apporter un réconfort et surtout gagner de l'argent, des entreprises ont commencé à proposer des alternatives pratiques et bon marché aux animaux de compagnie, ce sont ces fameuses pierres de compagnie. Aujourd'hui, plusieurs entreprises se sont spécialisées et proposent des galets bien ronds, mais aussi possible d'adopter des pierres semi-précieuses comme une améthyste ou du jade, si on a les moyens, bien sûr.
D'accord. Et c'est livré comment, un caillou de compagnie? Ça se présente comment?
La pierre est livrée dans une petite boîte en carton blanche, décorée d'un petit toit. C'est sa maison. Mmh. Eh oui. Il y a aussi un petit nid pour poser la pierre près de son ordinateur ou sa table de chevet. La société offre également un petit chapeau de paille pour
c'est
le
mignon.
Caillou. Eh oui, tout ça, c'est kawaii. Ça humanise un petit peu. Au total, ce petit set de débutants coûte un peu moins de 9 euros. Ouais, c'est pas un gros investissement quand même. Les gens aiment décorer leurs cailloux avec des grands yeux, une fausse bouche ou des accessoires. Enfin, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui présentent même des petits studios qu'ils ont construits pour leurs pierres. Écoute.
Alors, moi, j'avais entendu déjà parler de ça, des pierres de compagnie, il y a quelques années.
Ouais. Eh bien oui, c'est vrai. Ça existait en fait depuis la nuit des temps. On trouve donc pas ces cailloux de compagnie qu'en Corée du Sud. C'est là le phénomène qui semble le plus populaire en ce moment. Mais à l'origine, les premières pierres de compagnie étaient lancées aux États-Unis dans les années 70 par un professionnel du marketing, Gary Dahl, qui a fait fortune à l'époque en réussissant à vendre sa société Petrock plus d'1 million de cailloux de compagnie. Donc revenons en Asie, le caillou de compagnie, c'est un symbole ancestral.
Ah, que recherche-t-on en ayant une pierre ou un caillou de compagnie, consciemment ou inconsciemment?
Oui, c'est d'abord en fait la recherche du réconfort. La pierre étant un symbole de stabilité en Asie du Sud-Est, il y a de la sérénité à savoir que cette pierre a été érodée par les siècles. Il faut savoir que la tradition d'avoir des pierres chez soi remonte au 6e siècle et peut-être même bien avant. Donc tu vois, c'est pas tout récent. C'est la tradition japonaise du Sueseki.
D'accord.
Il y a même des pierres remarquables exposées dans les musées. Aujourd'hui, on retrouve ce type de pierre dans l'alcôve traditionnelle des pavillons de thé au centre de cette alcôve, sous une estampe ou une calligraphie.
Ah oui, donc ces pierres sont censées représenter quelque chose d'important.
Oui. Oui. Par exemple, la correspondance entre les montagnes et les pierres a un sens particulièrement profond. Les pierres sont censées représenter les pouvoirs de la montagne animés par les mêmes forces. C'est la pensée corrélative. Il y a même un livre du XVIIe siècle qui s'appelle « Le catalogue des pierres de la forêt des nuages ».
Oh, c'est beau.
Oui, c'est poétique. Qui semble être le premier manuel d'esthétique des pierres. On peut y lire que l'énergie la plus pure du monde se combine en formant la pierre. Ses formes sont merveilleuses et fantastiques. Et à l'intérieur d'un point fermé, on peut réunir la beauté de 1000 montagnes.
Ah, ça, c'est vraiment très, très beau, Didier.
Oui, oui, c'est l'idée de la miniaturisation. Je vais y arriver. Ne perd rien de la puissance de l'original.
Bon, Didier, c'est très philosophique ce que tu viens de
nous
dire.
Oui, oui, c'est vrai.
L'amour des pierres en Asie, on peut comprendre pourquoi, on peut mieux comprendre pourquoi on adopte les pierres de compagnie maintenant.
C'est ça.
Bon, Didier, tu sais, Asiologie.
C'est fini pour aujourd'hui, c'est ça,
oui, voilà. C'est fini, les amis. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend vos avis et vos suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Salut à tous.
On vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.